y a de grandes différences. Alors, il y a des différences, que, par exemple, au niveau des salaires, ça c'est très important. À travail égal, on n'a pas le même salaire que l'on vit à Düsseldorf ou à Dresde. Il y a aussi des différences d'appréciation de son propre passé ou du passé de la RDA. Je suis assez choqué de voir à quel point on parle toujours des deux dictatures allemandes. J'ai moi-même dit que c'est un régime totalitaire, mais il ne faut pas quand même confondre le nazisme et le communisme qui a suivi le Troisième Reich à l'Est.
Est-ce qu'on peut parler de maladresse dans le processus de réunification qui expliquerait un peu la persistance de cette fracture quasi invisible ?
Là où il y a eu le plus grand échec, à mon avis, c'est sur la perception culturelle de l'unification allemande. On n'a pas tenu compte du passé culturel des Allemands de l'Est. On a essayé de balayer rapidement l'identité culturelle de la RDA. On peut l'approuver ou la désapprouver, mais il est sûr et certain qu'il y avait une vie culturelle en RDA. Il y avait quand même de grands écrivains en RDA et une méconnaissance totale de cette partie de la culture allemande à l'ouest, et aujourd'hui encore une difficulté de reconnaître cet apport culturel. La RDA a été absorbée par la RFA. On oublie ceci, mais c'est quand même un point essentiel. Comment s'est fait l'unité allemande? Quel a été l'acte fondateur de l'unité allemande? Eh bien, tout simplement, c'était le recours à l'ancienne mouture de l'article 23 de la Constitution de la République fédérale qui prévoyait, dans sa version, que si des territoires voulaient appartenir au territoire de la RFA, ils pouvaient en faire la demande et être acceptés. C'est comme ça que s'est fait cette unification allemande. Il n'y a jamais eu d'acte fondateur, par exemple, par le biais d'un référendum, ce qui paraît aujourd'hui quand même incroyable et qui représente, qu'on le veuille ou non, un déficit démocratique.
Il semble que l'Allemagne a réussi à se déculpabiliser de son passé du Troisième Reich. En revanche, son passé communiste, qu'en est-il ?
Aujourd'hui, ce travail de mémoire exemplaire en partie qui a été fait en RFA, notamment à partir des années 80, pas plus tôt, sur le passé nazi, il est en panne, ce travail de mémoire, par rapport à la RDA, parce que l'on tombe dans une façon extrêmement manichéenne de voir les choses. Il y a eu les bons et les méchants. Les bons, c'était l'Ouest. Les méchants, c'était l'Est. Il y a eu les braves capitalistes et les méchants communistes. Il y a eu le clan de la liberté qui était à l'Ouest et le clan de la dictature qui était à l'Est. Ce n'est pas totalement faux, mais ce n'est pas scientifiquement, académiquement, intellectuellement une démarche plausible. Peut-être faudrait-il faire un travail de mémoire même sur le 9 novembre. Qui a joué un rôle le 9 novembre ? L'Ouest ? Non. C'était l'Est, c'était des citoyens de l'Est. Mais ces citoyens de l'Est, qui étaient-ils? Combien étaient-ils? Est-ce qu'un Français aujourd'hui est capable de me donner 1, 2, 3, 4 noms de personnes qui ont enclenché ce mouvement qui a conduit à la chute du mur de Berlin? Très peu de peuvent m'en donner parce qu'il n'y a pas eu de personnalité. Il n'y a pas eu un Václav Havel tel qu'en Tchécoslovaquie. Il n'y a pas eu un Jula Horn comme ce fut le cas en Hongrie. Il n'y a pas eu, et surtout, de Gorbatchev est-allemand. Et ça, c'est quand même un phénomène important. Il ne faudrait pas que le 9 novembre et les cérémonies qui entourent cette date deviennent des cérémonies, de volonté de légitimer politiquement le combat mené par la RFA contre la RDA. Il faut savoir que le 9 novembre est une date de libération d'un pays qui a été placé sous le joug d'un parti, à savoir le Parti Socialiste Unifié de la RDA.